Voilà, bienvenue. C'est la cinquième séance de notre série que nous avons appelée Le Bon Dépôt, la théologie réformée pour tous. Cinquième séance sur un total de 8, d'accord? Je tiens tout de suite à vous informer que le mois prochain, mois de décembre, il n'y aura pas de Bon Dépôt. Il n'y aura pas de séance. Voilà, c'est ça. Il n'y aura pas de dépôt du tout. Simplement, on reprendra au mois de janvier. Voilà, parce que le quatrième dimanche du mois de décembre tombe en plein entre les fêtes, le 26 décembre, le lendemain de Noël, pendant les vacances. Donc, le plus simple, c'est juste de sauter cette session-là et de continuer en janvier. Donc, en janvier, on aura numéro 6, février numéro 7, et mars, pour terminer, numéro 8. Mais nous continuerons notre habitude d'avoir une rencontre tous les quatrièmes dimanches du mois. L'horaire évidemment va évoluer parce que l'horaire du culte va évoluer. On vous tiendra informé par rapport à tout ça, mais on continuera cette habitude d'avoir une rencontre en plus du culte tous les quatrièmes dimanches du mois. La semaine dernière, le mois dernier, pardon, nous avons parlé du salut, ce que Dieu a fait pour nous. Le salut, ce que Dieu a fait pour nous. Et je vous rappelle simplement cette leçon qu'on était tous invités à retenir. C'était la suivante, elle tenait à une phrase. Notre salut est complet et il est complètement de Dieu. Notre salut est complet et il est complètement de Dieu. On avait vu que l'homme était tout à fait incapable de se sauver lui-même. Il n'a même pas par lui-même envie d'être sauvé finalement. Il n'a pas envie de chercher Dieu. Il est mort spirituellement en dehors de Jésus-Christ. Et on a vu il y a un mois que Dieu avait tout fait. Il avait tout mis en œuvre, tout ce qui était nécessaire à mettre en œuvre, il l'a mis en œuvre pour sauver des hommes qu'il a choisi de sauver de toute éternité. On a parlé longuement de tous les bienfaits incroyables, pratiquement inimaginables, qui sont réservés aux élus en Christ, à ceux que Dieu a choisi de sauver en son Fils Jésus-Christ, et qu'il avait choisi éternellement de sauver en son Fils Jésus-Christ. Tout cela en vertu de ce qu'on a appelé une alliance éternelle, un accord conclu éternellement entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et en vertu duquel Dieu sauverait des hommes par son Fils Jésus-Christ, qu'il enverrait payer pour leurs péchés, qu'il enverrait par l'Esprit payer pour les péchés de ceux qui se confieraient en lui. On a parlé de la régénération, la justification, l'adoption, la sanctification, la glorification, toutes ces choses que Dieu fait pour les élus. Tout cela découle d'un décret éternel. Mais on a parlé de tout ça d'une perspective précise, et c'était la perspective éternelle, la perspective du plan éternel de Dieu, la perspective qui sera la nôtre. Lorsque nous serons dans la gloire du ciel pour l'éternité, c'est la perspective de Dieu en ce moment même, parce que Dieu n'est pas limité par le temps, il est omniscient, mais ce n'est pas exactement la perspective que nous avons aujourd'hui. Nous sommes limités par les lois de la physique, par les lois de l'espace-temps. Nous avons une révélation spéciale de la part de Dieu qui nous éclaire sur énormément de choses, mais on a bien pris soin de préciser que le livre de vie, par exemple, sur lequel est inscrit le nom de tous les croyants, de tous les élus, on n'y a pas accès aujourd'hui. On ne peut pas consulter le livre de vie aujourd'hui. On ne peut pas aller à la bibliothèque, emprunter le livre de vie, puis regarder si notre voisin s'y trouve. Impossible. Notre perspective aujourd'hui n'est pas tout à fait la même. Aujourd'hui, l'évangile, c'est une bonne nouvelle, hein, par définition. C'est un message qui est annoncé de façon universelle. Il est adressé à tous, il a vocation d'être adressé et d'être communiqué à tout le monde sans discrimination. Et la question que nous voulons nous poser aujourd'hui, contrairement à la question du mois dernier, Dieu ce qu'il a fait pour nous, aujourd'hui c'est le salut, ce que Dieu a fait pour nous, pardon, aujourd'hui c'est le salut, la réponse de l'homme. Comment l'homme étant confronté à ce message de l'Évangile, comment l'homme est-il invité à y répondre? D'accord? Imaginez que vous receviez dans votre boîte aux lettres une enveloppe, comme on en reçoit parfois, où en gros sur l'enveloppe c'est marqué « Vous êtes l'heureux gagnant de 1 million d'euros, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Bon, la plupart du temps, on les jette à la poubelle, ces enveloppes. Mais je sais pas, moi, je sais que quand j'étais un peu plus jeune et qu'il y avait ce genre d'enveloppe qui arrivait à la maison, chez mes parents, moi, je voyais que mes parents, ils s'en désintéressaient. Je me dis, oula, mais attends, un million de francs. Alors, je regardais l'enveloppe et surtout, je regardais les conditions. Je regardais comment qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer en possession de ce lot incroyable. La plupart du temps, évidemment, c'était une grosse arnaque. Et c'était un mensonge, on va le dire, hein, sur l'enveloppe. Mais quand même, on est invité à regarder les conditions. On annonce quelque chose d'incroyable, on veut regarder les conditions. Comment entrer en possession de cette chose incroyable? L'évangile se présente à nous sans arnaque, sans mensonge, comme une excellente nouvelle. Ce que Dieu a fait pour nous. Comment est-ce qu'on entre en possession de ces nombreux bienfaits qui sont décrits dans la parole de Dieu en ce qui concerne ceux qui se confient en Jésus-Christ, en ce qui concerne les élus? J'aimerais commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, par simplement une citation du prophète Ézéchiel, qui résume bien, c'est une citation peut-être emblématique en ce qui concerne notre sujet aujourd'hui. Ézéchiel chapitre 18. J'avais du mal à me relire, je crois que c'est chapitre 18. À la fin du chapitre, verset 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, oracle de l'Éternel, du Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, oracle du Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Dans nos milieux chrétiens et évangéliques, nous parlons beaucoup de la conversion. Je crois que c'est un terme tout à fait légitime, c'est un terme biblique. Mais qu'est-ce que ça veut dire la conversion? Qu'est-ce que ça veut dire la conversion? Qu'est-ce que ça veut dire l'appel à la conversion? Et je vous propose d'examiner différentes facettes de la conversion. D'accord? Différentes facettes. Il y aura cinq facettes, mais au risque de vous faire très peur, je vous signale tout de suite que mon exposé aura 24 points. 24 points, et on a fait le calcul avec Jonas, 24 points. Points pour les rentrer en moins d'une heure, ça fait maximum 2 minutes par point, d'accord? Donc on va aller assez vite, mais je vous ai mis sur les plans le détail, comme ça vous pourrez vous y retrouver plus facilement. La première facette de la conversion, c'est la foi, et pas n'importe quel genre de foi, la foi en Jésus. Dans le petit catéchisme de Westminster, nous avons une définition qui nous est proposée de la foi. La question numéro 86, qu'est-ce que la foi en Jésus-Christ? Et la réponse, la foi en Jésus-Christ est une grâce salvatrice par laquelle nous le recevons, Jésus-Christ, hein, par laquelle nous le recevons, et nous mettons notre confiance en lui seul pour notre salut, comme il nous l'offre dans l'Évangile. Quelle est l'origine de la foi? Eh bien, dans l'Épître aux Éphésiens notamment, nous avons ce verset, Éphésiens 2, verset 8, où il est dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et il est précisé tout de suite, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Quelle est l'origine de la foi? L'origine de la foi, c'est Dieu qui donne la foi. Cette affirmation, elle coule de source si l'on considère tout ce qu'on a vu le mois dernier concernant l'incapacité de l'homme à se donner la vie à lui-même, à se régénérer soi-même, le fait qu'il n'est même pas enclin à vouloir croire en l'Évangile. D'accord? La foi, c'est bien un don de Dieu. Il n'y a donc aucune raison de se glorifier aujourd'hui en tant que chrétien de sa propre foi. Comme si on pouvait se féliciter soi-même, ouais, j'étais trop fort, j'ai placé ma foi en Jésus. Parce que ça, c'est une façon de mériter son salut, n'est-ce pas? Et de se glorifier soi-même. Non, la foi, c'est un don de Dieu, c'est une grâce salvatrice, comme il est dit dans le petit catéchisme de Westminster. C'est une grâce, c'est un don de Dieu, un don immérité. Ça doit résulter, en ce qui concerne notre vie chrétienne, en une louange plus grande. Merci Seigneur pour la foi que tu as daigné me donner. Pas pour la foi que j'étais assez fort pour mettre en toi, mais pour la grâce, pour la foi que tu as daigné me donner. Et ça doit aussi nous inciter à prier avec peut-être plus de confiance en ce qui concerne nos amis et nos proches non-croyants. Sachant que ce n'est pas nous qui pouvons les inciter à avoir la foi, ce n'est pas nous qui pouvons les convaincre d'avoir la foi, c'est Dieu qui donne la foi. D'accord? Bon, je vous renvoie en ce qui concerne tout cela à l'exposé de la semaine dernière, l'œuvre de l'Esprit dans le cœur des élus. Ok. Deuxième chose, la foi, son vecteur. Pour gagner du temps, je vais lire la plupart des passages bibliques aujourd'hui. Son vecteur, c'est la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Ça doit nous inciter, en tant que chrétiens, à valoriser la prédication de la Bible, la transmission du message biblique. Parce que c'est en entendant ce message que Dieu donne la foi. C'est en utilisant sa parole que Dieu fait naître la foi. D'accord? La foi vient de ce qu'on entend. Quelle est la nourriture de la foi? De quoi la foi se nourrit-elle pour grandir? Eh bien, si son vecteur c'est la parole, la parole est aussi sa nourriture. Elle se nourrit de la parole de Dieu pour grandir, pour devenir plus forte, plus profonde, mais pas que la parole. La confession de foi parle, utilise un terme, le terme de moyen de grâce, des moyens que Dieu met à notre disposition pour grandir dans notre vie chrétienne. Alors bien sûr, hein, il y a la Bible. Alors c'est une invitation à passer du temps à lire la Bible, à venir au culte pour écouter la Bible être prêchée, mais la lire personnellement également, et puis il y a sans doute d'autres moyens comme l'étude biblique, etc. Mais parmi les moyens de grâce, il y a aussi la prière. Il y a la communion fraternelle, il y a les sacrements, toutes ces choses que Dieu a mises à notre disposition pour notre bien, pour notre piété, pour notre croissance dans la foi. Voici ce que nous lisons dans la première épître de Pierre. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole, afin que par lui, par le lait non frelaté de la parole, vous croissiez pour le salut. Voyez, la parole de Dieu est comparée à une nourriture. Hein? Là.
Enfant, vous croissiez
Oui.
pour le salut ou dans le salut?
Ouais, je pense que le sens, c'est dans le salut qui est déjà votre, puisqu'il ajoute, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc c'est pas, à mon avis, un appel à la conversion, mais un appel comme adressé à des nouveaux chrétiens, en l'occurrence, le lait non frelaté, pas forcément d'ailleurs, hein, mais il parle quand même d'enfants nouveau-nés, et il les invite à désirer ce lait, cette nourriture que Dieu a mis à leur disposition. Mais cette métaphore de la nourriture, hein, elle est appliquée à d'autres choses. Par exemple, comme on l'a vu ce matin, elle est appliquée aussi au corps et au sang de Jésus-Christ. Hein. Lait pas lait, pardon, qu'est-ce que je raconte? Pain et coupes, hein, qui sont partagées, présentées dans la Sainte Cène. Quelle est la nature de la foi? Qu'est-ce que c'est que la foi? Nous avons une bonne définition biblique. La foi, c'est la ferme c'est l'assurance, pardon, des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est donc une confiance, mais c'est une confiance telle qu'elle nous met en mouvement. D'accord? C'est une confiance telle qu'elle conditionne nos actes. D'accord? C'est pas juste une confiance du genre d'une conviction intellectuelle. Moi, je suis convaincu que 2 plus 2 font 4, mais qui reste désincarné, qui reste détaché de notre vie. La foi, c'est une confiance qui engage la personne. Parfois, j'aime bien dire que la foi, c'est une confiance qui me meut. Du verbe mouvoir. D'accord? La foi, c'est une confiance qui me meut. Elle me met en mouvement, vous voyez? Pas mal pour s'en souvenir, là. La foi, c'est une confiance qui me meut. La vache, ouais. Donc, nous croyons, mais nous agissons en conséquence. Hein? Nous agissons sur la base de ce que nous croyons. Imaginez que vous soyez sur le quai du tramway à Perrache et vous voulez vous rendre de Perrache à l'INSA, à Villeurbanne. Donc, vous regardez le plan. Le plan indique Villeurbanne, tram T1. Ok, vous avez même l'horaire qui va s'afficher. Ok, information intellectuelle. Vous avez des éléments qui vous sont proposés sur lesquels vous pouvez baser votre conviction. Ouais, effectivement, j'ai confiance dans ce panneau qui me dit que le T1 m'amènera à Villeurbanne. J'ai confiance dans cet affichage numérique qui me dit qu'il va passer dans 3 minutes. Donc vous allez attendre 3 minutes. Déjà, votre confiance a influencé vos décisions, votre comportement. Moi, j'ai confiance, je vais attendre 3 minutes. 3 minutes plus tard, fidèle à sa parole, le tramway arrive, se présente à vous, c'est marqué T1, c'est marqué dessus IUT Fécine, donc vous dites, c'est la bonne direction. Et là, vous êtes totalement convaincu que ce tramway peut vous apporter à Villeurbanne. Mais ce n'est pas suffisant. Vous avez beau le croire, ça ne va pas vous apporter à Villeurbanne si vous ne montez pas dedans. La foi, c'est une confiance qui me meut. Hein ? Elle est censée me mettre en mouvement. Elle n'est pas complète si je n'agis pas en conséquence. D'accord ? La foi au tramway, ça veut dire monter dedans. Monter dedans sur la base des informations qui vous sont présentés. C'est ça la foi biblique. L'assurance des choses qu'on espère, d'arriver à Villeurbanne, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne sais pas pour sûr si ça va... Enfin, je ne peux pas prouver que ça va m'amener à Villeurbanne, mais j'ai confiance à un point où je vais monter dedans. Je démontre cette confiance. Je monte dedans. Et effectivement, le tramway vous amènera à Villeurbanne, sauf s'il a une panne. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec Dieu, ce qu'on va voir dans quelques instants, avec Dieu, non seulement il nous fait des promesses, mais en plus il est fidèle pour les accomplir et puissant pour les accomplir parfaitement. Donc il n'y a pas de risque de panne ou de grève avec Dieu. Dernièrement, concernant la foi, quel est son objet? Ce qui est important, mes amis, ce qui est important, ce n'est pas d'abord la foi, mais l'objet de la foi. Parce que la foi avec un mauvais objet, ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert qu'à nous induire peut-être, nous induire en erreur et nous entraîner sur le chemin de perdition. La foi avec le mauvais objet. Donc la foi toute seule, ça ne sert à rien. La foi avec le bon objet. Quel est l'objet de la foi? Jésus-Christ. Galates 2, verset 20. Je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. D'accord ? C'est pas dans la foi à n'importe quoi, c'est la foi au Fils de Dieu qui a fait quelque chose de précis. Il m'a aimé et il s'est livré lui-même pour moi. Est-ce que vous vous souvenez d'une publicité qui passait il y a quelques années autour de Noël ? Une publicité pour les cafetières. C'est l'époque où c'était la grande mode, les machines à café, là. Et c'était une machine à café Senseo, si je me souviens bien. Et c'est une publicité qui m'a vraiment marqué, parce qu'elle est assez courte, et on a un gars et sa femme, comme ça, qui sont à l'appartement le matin de Noël, et la femme sort un cadeau pour son mari, d'accord ? Et le cadeau, il est emballé dans un papier cadeau, mais il a la forme d'une guitare, vous voyez ? Hop, comme ça. La forme parfaite d'une guitare. Elle fait « Tiens mon chéri, c'est pour toi ». Et le mari fait « Oh, je parie que c'est une machine à café Senseo ». Alors qu'en fait, elle a la forme parfaite d'une guitare, d'accord ? Le gars, il a tellement envie d'avoir une machine à café Senseo qu'il s'est persuadé lui-même que ce cadeau, ça va être une machine à café Senseo. Vous imaginez, bon, la pub s'arrête là, mais vous imaginez sa déception au moment d'ouvrir le paquet cadeau. Mais, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on est persuadé de quelque chose, donc on a une foi énorme, que cela est vrai. Vous voyez ? C'est pas parce que je suis persuadé que ma guitare peut me faire du café. Okay. Je suis quelqu'un qui a une foi en béton, d'accord ? Je suis persuadé, je suis prêt à mourir pour le fait, pour ma conviction que ma guitare peut me faire du café. Ça ne va pas me faire du café pour autant, d'accord ? Ce n'est pas la foi qui compte, c'est l'objet de la foi. Vous voulez du café ? Placez votre confiance dans une machine à café, pas dans une guitare. Vous voulez être sauvé ? Placez votre confiance en Jésus-Christ.
Alex, oui. Encore un problème de préposition. La Bible Bayard, elle traduit la foi du Fils de Dieu. Ça, stéréotypiquement, c'est intéressant. Parce qu'en fait, on participe à la foi que Jésus a fait dans son humanité.
Oui, en tout cas, les deux sont vrais. Hein. C'est vrai que ce qu'on a vu le mois dernier, c'est qu'on participe non seulement... ce qui nous est imputé, c'est non seulement l'obéissance passive de Christ, hein, sa souffrance, son sacrifice expiatoire, mais aussi son obéissance active, sa parfaite fidélité à Dieu, sa parfaite foi. Cela aussi nous est imputé, oui. Effectivement. Donc c'est intéressant. Ce serait intéressant, encore une fois, de regarder précisément le grec, mais bon, c'est pas le but. Aujourd'hui, en tout cas. Vous savez, on peut avoir foi en n'importe quoi, je l'ai dit. On peut même avoir foi en sa propre foi. Et penser que Dieu va nous sauver, non pas en vertu du sacrifice de son Fils à la croix, mais en vertu de notre foi. Et à la fin, on va se dire, ben, elle était pas mal ma foi, hein. Je suis trop fort pour que Dieu m'ait sauvé. Pas du tout. Comme on l'a dit au début, la foi, c'est un don de Dieu. Dieu nous sauve en vertu de son Fils Jésus-Christ, de son œuvre, par le moyen de la foi. Pas en vertu de la foi, mais par le moyen de la foi que lui nous donne. D'accord? Ok. On passe à la deuxième facette. La deuxième facette, on va essayer d'accélérer un peu. La deuxième facette de la conversion, c'est la repentance. La repentance, c'est quelque chose d'essentiel. C'est un terme, malheureusement, qui est un peu décrié aujourd'hui, qui n'est pas politiquement correct. Petit catéchisme de Westminster. C'est la deuxième et dernière fois que je cite le petit catéchisme ce soir. Qu'est-ce que la repentance pour la vie éternelle? Question. Réponse. La repentance pour la vie éternelle est une grâce salvatrice par laquelle le pécheur, vivement touché de son péché, s'empare de la miséricorde de Dieu en Christ et se détourne avec douleur et haine de son péché pour se tourner vers Dieu avec la ferme intention de vivre dans une obéissance nouvelle et d'y persévérer. Et d'y persévérer. Jésus a dit que la repentance serait prêchée. La repentance, c'est Luc 24, verset 47. Voici ce que dit Jésus. Jésus dit aux disciples, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » La nécessité absolue de la repentance, malgré le discours de nos contemporains. Voici ce que Luther a cloué à la porte de l'église de Wittenberg. La première de ses 95 thèses, voici ce qu'il dit, Martin Luther. En disant « Repentez-vous », notre Maître et Seigneur Jésus-Christ a voulu que la vie entière des fidèles fût une pénitence. Pénitence, un synonyme de repentance. Jésus a voulu que la vie entière des fidèles fût une pénitence. Quel est le fondement de la repentance? Sur quoi se base-t-elle? Elle se base sur le fait d'être convaincu de ses péchés. Un des problèmes, je dirais, aujourd'hui, c'est que nous ne mesurons... Enfin, à mon avis, ce n'est pas juste aujourd'hui, probablement, mais si vous comparez les prédications d'aujourd'hui avec les prédications des puritains, par exemple, l'attention qui est portée à la gravité du péché dans nos vies, le contraste est incroyable. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on hésite à dénoncer ce qui est dénoncé dans la Bible. Le péché, c'est grave. Le péché, c'est grave. Billy Graham, je crois, a dit une fois à quelqu'un qui lui demandait « Monsieur Graham, qu'est-ce que vous pensez qu'il doit se produire avant de voir un réveil dans votre pays ?» Donc en l'occurrence, pour Billy Graham, c'était les États-Unis. Il dit « Avant de voir un réveil dans mon pays, je pense qu'il faut qu'il... Je m'attends à voir deux choses. D'abord, une conscience renouvelée de la sainteté de Dieu. Et deuxièmement, une conscience renouvelée de la gravité du péché. Voilà, sainteté de Dieu et gravité du péché. » Et je crois que ce sont des éléments qui, parfois, n'ont pas la place qu'ils méritent dans nos églises et dans nos enseignements, dans nos prédications. Être convaincu du péché. Voyez comment le roi David en parle dans le psaume 51. Vous connaissez bien ce psaume. Psaume de repentance hein, du roi David. Verset 4. « C'était pas ce verset que je voulais vous citer. C'était le verset 6. C'était le verset 6 que je voulais vous citer. J'ai péché contre toi. C'est David qui parle à Dieu. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voyez l'expression de la repentance chez David. Il confesse qu'il a péché contre Dieu, alors qu'en fait, quelque part, il a péché contre Bathsheba, hein, la dame avec qui il a commis adultère, et puis il a péché contre le mari de Bathsheba en l'envoyant à la guerre se faire trucider. Non, mais pour David, il avait tellement conscience de ce que c'est que le péché, tellement convaincu de son péché, qu'il dit, c'est contre toi et toi seul, Seigneur, que j'ai péché. Et vous voyez ce que ça entraîne dans son attitude? Il accepte d'être jugé par Dieu. Il reconnaît que la sentence de Dieu serait tout à fait juste s'il choisissait de le punir à l'instant même. Il dit, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Il est prêt à accepter le juste jugement de Dieu. Le péché, c'est grave. Voilà le fondement de la repentance. La forme de la repentance, une autre citation dans Ézéchiel. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous ne pourrez plus vous regarder en face à cause de vos fautes et de vos horreurs. La conviction que nous avons péché et que nous sommes pécheurs devrait entraîner chez nous, comme on l'a vu dans le petit catéchisme de Westminster, une haine, une sainte haine du mal et du péché dans notre vie. Voilà ce que dit Calvin en parlant de la repentance, de l'appel à la repentance dans la Bible. Il dit, il s'agit de mener les hommes à ce point qu'étant confus de leur péché et navrés de la crainte du jugement de Dieu, ils s'humiliassent et prosternassent devant sa majesté qu'ils avaient offensée et se retirassent en la droite voie. Voilà, la repentance, c'est plus qu'un simple regret, hein. C'est plus que, oh, zut, j'ai raté le coche aujourd'hui. Non, c'est une honte. C'est une crainte du jugement de Dieu. Et en même temps, de reconnaître que son jugement est juste et il serait juste. La repentance peut avoir plusieurs formes, elle doit occuper une place dans notre piété personnelle. Hein? Lorsque nous nous tournons vers Dieu dans la prière, lorsque nous lisons la parole, Seigneur, tu connais les péchés que j'ai commis aujourd'hui, même ceux dont moi je n'ai même pas conscience, pardonne-moi. Ça doit caractériser notre piété. Hein? Mais aussi, parfois, la repentance a une dimension publique, une forme publique. Dans le cadre de la famille, quand nous avons offensé le conjoint ou un enfant, ou dans le cadre des relations fraternelles, dans le cadre de l'Église. Mon frère, j'ai peur de t'avoir offensé, j'ai mal agi, pardonne-moi, je me repens, etc. etc. Qui est l'auteur de la repentance? Alors, vous ne serez pas surpris si je vous dis que c'est Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de la repentance dans nos vies. Nous ne sommes pas enclins à nous humilier. C'est Dieu qui nous humilie. Jérémie 31, verset 18. J'entends Éphraïm qui se lamente. Deux points. Et là, c'est Éphraïm qui parle, d'accord? Tu m'as puni. Et j'ai été puni, comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir, et je reviendrai, car c'est toi l'Éternel, mon Dieu. Fais-moi revenir. Est-ce qu'on est prêt à prier dans nos prières personnelles, à demander à Dieu de nous montrer le péché dans nos vies? Parfois, ça peut faire mal, hein, si on lui demande et qu'il le fait. Mais là, Éphraïm, dans ce verset, dit, fais-moi revenir, et je reviendrai. C'est à toi, Seigneur, c'est toi qui a le pouvoir de me montrer mon péché. Jésus a dit que c'était l'œuvre du Saint-Esprit de nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Quel est le résultat de la repentance dans nos vies? La repentance, elle doit caractériser, c'est une facette de la conversion, hein. Quand on se convertit, on se repent de ses péchés. Mais la repentance ne s'arrête pas là, comme on l'a vu dans cette citation de Martin Luther. Elle doit caractériser toute la vie chrétienne. C'est une posture. Mais la repentance dans nos vies a une dimension pédagogique. Dieu nous corrige pour nous amener à la repentance, et de cette repentance résulte un paisible fruit de justice, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 11. C'est exactement, enfin, c'est pour cette raison que dans ce même passage, l'auteur compare la correction de Dieu dans nos vies à celle d'un père avec ses enfants. Pourquoi est-ce que des parents corrigent leurs enfants? C'est pas en principe, c'est pas pour passer ses nerfs sur ses enfants. On corrige dans une perspective pédagogique, pour les faire grandir en maturité, pour les faire grandir en sagesse, d'accord? Pour les protéger. C'est pour leur bien. On les corrige et souvent, ce qu'on recherche, c'est qu'ils se repentent de leur désobéissance, hein, et qu'il y ait une réconciliation. Et que le fruit de cette démarche, ce soit effectivement non seulement la justice, donc une croissance chez l'enfant, mais aussi la paix dans le foyer, la paix entre les parents et les enfants, la paix peut-être entre les frères et les sœurs de la famille. Dieu agit de la même façon dans la vie des chrétiens. Il veut produire en nous un paisible fruit de justice. Il utilise cela, pour cela sa correction, et sa correction est censée nous amener à la repentance. Donc, première facette de la conversion, la foi en Jésus. Deuxième, la repentance des œuvres mortes. Troisième, l'obéissance à la parole. L'obéissance à la parole. C'est peut-être une dimension un peu plus délicate. Et en ce qui concerne la place de la loi de Dieu, des commandements de Dieu dans la vie chrétienne, Jonas en parlera plus amplement, donc en janvier. En janvier, numéro 6, la séance numéro 6, on parlera de la vie chrétienne, d'accord? De la vie chrétienne en général. Et Jonas en parlera plus amplement de ce domaine-là. Mais, en tout cas, on ne peut pas nier que l'obéissance à la parole de Dieu soit une des facettes de la conversion. Qu'est-ce qui doit motiver cette obéissance à la parole de Dieu? Là, on a un passage qui est très clair dans l'épître de Jacques. Vous connaissez bien, je n'en doute pas. Où Jacques dit, par exemple, « Quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. » Les œuvres, c'est l'obéissance à Dieu. Hein? Toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Et la réponse de Jacques, « Montre-moi ta foi sans les œuvres. » Et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Autrement dit, tu n'es pas capable de me montrer ta foi sans les œuvres. Mais moi, par contre, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Je te prouverai que j'ai une vraie foi. Autrement dit, Jacques est en train de dire, dans tout ce passage, que la foi et l'obéissance sont inséparables. La foi en Jésus-Christ et l'obéissance à sa parole sont inséparables. Elles sont inséparables. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, 1er chapitre, verset 5, utilise même l'expression « l'obéissance de la foi ». L'obéissance de la foi. Son désir, c'est d'amener les gens à l'obéissance de la foi, dit-il. On a dit tout à l'heure que la foi, c'était une confiance telle qu'elle nous mettait en mouvement, qu'elle avait une influence, qu'elle conditionnait notre comportement. Donc vous voyez qu'il y a un lien indissociable entre le comportement et la foi au sens biblique. Avec le groupe de jeunes, on a fait un jeu une fois, un jeu où on avait une planche, une grande planche en bois posée par terre, d'accord ? Et on choisissait un volontaire, on désignait un volontaire, on lui mettait un bandeau sur les yeux, il ne savait pas de quoi il s'agissait, on le faisait monter sur la planche, d'accord ? Donc on l'a fait avec Judson par exemple, tu te rappelles? On le faisait monter sur la planche, et après on lui disait « Judson, tu nous fais confiance ?» Il disait « Oui, je vous fais confiance, aucun problème. »« Tu nous fais confiance ?»« Oui, je vous fais confiance, aucun problème. » Bandeau sur les yeux. Ensuite on s'est mis à quatre, aux quatre angles de la planche, et puis on a soulevé la planche, d'accord? Et lui avec les yeux bandés. Et on lui a fait croire qu'on soulevait la planche de plus en plus haut. Mais au lieu de la soulever de plus en plus haut, en réalité, ceux qui portaient la planche se baissaient de plus en plus. De sorte que la planche n'a jamais dépassé 2 cm, n'était jamais plus haut que 2 cm, qu'à 2 cm du sol, d'accord? Et ensuite on lui a dit, Judson, tu nous fais confiance. Et lui, pendant ce temps, il était comme ça. Il pensait qu'il allait taper le plafond, vous voyez. On a des vidéos hein, pour le prouver. Hein. Et on lui dit, Judson, tu nous fais confiance? Je vous fais confiance. Bon, si tu nous fais confiance, Judson, saute. Non, c'est pas ça qu'on dit. On dit, fais un pas en avant. Non, je vais pas faire un pas en avant. Tu nous fais confiance, oui ou non? Oui, alors fais un pas en avant. Non. Vous voyez, la tension entre la confiance et l'acte. Évidemment, ce n'est pas une très bonne illustration de la foi biblique, parce que la foi biblique, ce n'est pas un bandeau sur les yeux. Au contraire, c'est une intelligence éclairée par des faits historiques, des faits bibliques, une révélation de la part de Dieu. Mais si, en vérité, nous avons confiance en Dieu, et qu'il nous demande de faire quelque chose, la logique même veut qu'on le fasse. Sinon, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment confiance. Hein ? Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment confiance. La foi et l'obéissance sont inséparables. Quel est le but de l'obéissance à la parole de Dieu? Son but, vous le savez bien, c'est la gloire de Dieu. Enfin, je dis, vous le savez bien, parfois on dit que le but de l'obéissance, c'est le bien des hommes. C'est pas faux. Mais le premier but de l'obéissance, c'est la gloire de Dieu. Et de la gloire de Dieu dans nos vies découle notre bien. Mais nous ne devons pas obéir à Dieu par intérêt personnel. Nous ne devons pas obéir à Dieu de façon égocentrique, mais nous devons obéir à Dieu de façon théocentrique, centrée sur Dieu. D'accord ? C'est sa gloire qui compte, d'abord. Et quand il est glorifié, alors nous sommes heureux. Mais ce n'est pas parce que nous sommes heureux qu'ensuite Dieu est glorifié. C'est inverser les rôles. D'accord ? C'est quand Dieu est glorifié que nous sommes heureux. Chapitre 2, verset 12. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. Le but, c'est la gloire de Dieu. Quelle est la puissance que Dieu nous donne pour obéir à sa parole? La puissance qu'il nous donne, c'est son Saint-Esprit, qui vient habiter chez le croyant. Il y a ce verset, encore une fois, je ne doute pas que vous le connaissez bien, Philippiens 2, verset 13, si vous ne le connaissez pas, apprenez-le par cœur. C'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire, selon son dessein bienveillant. C'est Dieu qui le fait en nous. Et la puissance qu'il déploie dans nos vies pour le faire, pour nous motiver à l'obéissance, pour accomplir cette obéissance à sa parole, c'est le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Ça doit nous inciter à chercher Dieu dans la prière, à lui demander de déployer cette puissance dans nos vies. C'est sa puissance. Ce n'est pas pour nous glorifier, nous, c'est pour glorifier Dieu. Seigneur, aujourd'hui, aide-moi. Viens à mon secours, augmente ma foi. Aide-moi à te suivre selon tes voies. Si j'ose dire, le Saint-Esprit, c'est un peu comme le carburant qu'on met dans une voiture. Quelqu'un pourrait vous offrir une magnifique voiture avec 5 vitesses, un bolide, d'accord ? Tiens, prends ton bolide et maintenant va faire des courses avec, enfin des rallyes, vous voyez ? Et puis vous mettez la clé dans le contact et rien ne se passe. Ça sert à rien si on ne vous donne pas aussi la puissance, le carburant pour l'accomplir. Dieu nous donne un magnifique bolide, encore une fois on est dans une illustration là, mais il nous met aussi le plein. Et c'est l'Esprit dans nos vies, le Saint-Esprit dans nos vies. Quels sont les critères de notre obéissance à la parole de Dieu? La réponse est dans la question, les critères, c'est la parole de Dieu. C'est sa loi, ce sont ses commandements. On a aussi un verset qui nous le rappelle dans le livre du prophète Michée, que vous connaissez parce qu'il existe sous forme de chant, ce verset. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, et que tu aimes la loyauté, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Nous ne devons pas lire les commandements de Dieu dans sa parole, nous ne devons pas les lire comme provenant d'une puissance tyrannique, d'un dictateur, mais plutôt comme provenant d'un Dieu qui est bon, un Dieu d'amour, un Père aimant, et qui a démontré son amour en envoyant son Fils prendre sur lui les conséquences de nos fautes, d'accord ? C'est dans cette perspective-là que nous devons lire la loi dans la Bible, pas dans une perspective tyrannique. Prenez le temps un jour de lire le psaume 119 en entier, d'accord ? Le plus long psaume de tous les psaumes, le plus long chapitre de la Bible. Prenez le temps un jour de le lire en entier et admirez la passion du psalmiste pour la loi de Dieu. Il adore la loi de Dieu, quoi. Il adore les commandements. Et il n'est pas masochiste. Il aime la loi de Dieu parce qu'il sait qu'elle provient d'un Dieu qui est bon, d'un Dieu aimant. Le psaume 1 le dit bien. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ça va un peu à contre-courant de la mentalité d'aujourd'hui, hein, où toute loi est perçue comme une menace. Alors là, on est invité à prendre plaisir dans la loi de Dieu. Quelles sont les limites de l'obéissance? Et oui, il y a des limites. Des limites, disons ce qui est écrit dans Romains chapitre 10, verset 3. Paul parle des juifs de son époque, et il dit « En ignorant la justice de Dieu et en cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » Ils ont cherché à établir leur propre justice. Et Paul parle en connaissance de cause parce qu'il était pharisien lui-même. Et il sait que les pharisiens étaient très très zélés pour une certaine forme d'obéissance. Mais ils cherchaient non pas à se soumettre à la justice de Dieu, mais à établir leur propre justice. Les limites de l'obéissance, c'est la même chose que ses critères, c'est la parole de Dieu. À partir du moment où on essaye de s'imposer des choses, une obéissance qui ne provient pas de la parole de Dieu, ce n'est pas de l'obéissance chrétienne. C'est une forme de pharisaïsme ou de légalisme. Parfois, nous avons envie d'ériger en loi divine des préceptes qui ne sont qu'humains. C'était le reproche que Jésus a fait aux pharisiens, comme il le dit au chapitre 15 de l'évangile de Matthieu. Et en fait, il est en train de citer une parole du prophète Ésaïe. « C'est en vain qu'ils me rendent un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que préceptes humains. » Ça, c'est la définition du légalisme. Ériger en loi divine des préceptes qui ne sont qu'humains. Mais il y a un autre danger. Celui d'utiliser des lois divines, donc des lois qui sont bel et bien dans la parole de Dieu, mais dans un but centré sur soi, dans le but d'établir sa propre justice, dans le but de mériter la faveur de Dieu. Et cela, ce n'est pas possible. J'aime beaucoup cet article de la Confession de foi de Westminster. Donc ce n'est pas dans le Petit Catéchisme. J'avais dit que j'avais arrêté de citer le Petit Catéchisme. Maintenant, c'est la Confession de foi. Et vraiment, c'est très bien dit. Bien sûr, il faut que je le retrouve maintenant. Article 16. Nous y voici. Les œuvres accomplies par ceux qui ne sont pas régénérés, bien qu'elles puissent être par leur contenu des choses que Dieu commande, et profitables aussi bien à eux-mêmes qu'aux autres, parce qu'elles ne procèdent pas cependant d'un cœur purifié par la foi, et qu'elles ne sont faites ni droitement selon la parole, ni en vue de la gloire de Dieu, sont donc coupables et ne peuvent plaire à Dieu ou rendre un homme apte à recevoir sa grâce. Et cependant, les négliger est encore plus coupable et déplaît encore plus à Dieu. C'est pas mal quand même. Je ferai passer ce petit livret tout à l'heure. Alors, l'obéissance, on peut résumer ça à l'expression de notre confiance et de notre amour. Nous devons obéir non pas par tyrannie, mais comme expression de notre amour de Dieu et de notre confiance en lui. Quatrième facette de la conversion, l'assurance du salut. L'assurance du salut. C'est une vraie question que se posent beaucoup de croyants. Est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que je peux être certain d'être sauvé? Est-ce que je peux être certain qu'avant la fin de ma vie, je ne vais pas déchoir de la foi que j'ai l'impression d'avoir aujourd'hui? C'est une vraie question que beaucoup de croyants se posent. Essayons d'y voir un peu plus clair. Eh bien, la Bible parle de l'assurance du salut. Et elle pose une première condition. Si vous voulez être sûr d'être sauvé, première condition. 1 Jean, chapitre 5, verset 13. C'est l'apôtre Jean, hein, qui écrit à la fin de son épître, sa première épître. Cela, je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Première condition, croire au nom du Fils de Dieu. Et là, l'apôtre Jean est explicite en nous disant, c'est possible, d'accord, de savoir que l'on a la vie éternelle. Je vous l'écris dans ce but-là, pas pour vous réconforter dans le vague espoir que vous soyez peut-être sauvés. Non, je vous l'écris afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Ah, si vous croyez au nom du Fils de Dieu. Il n'y a pas d'assurance du salut possible si l'objet de notre foi est autre que Jésus-Christ. Et le Jésus-Christ de la Bible, je précise, le Jésus-Christ de la Bible. Alors, d'accord, c'est possible. On croit en Jésus. Dans quoi notre assurance doit-elle s'ancrer? Eh bien, elle doit s'ancrer dans les promesses de Dieu. Dans les promesses de Dieu. Regardez par exemple Jean, chapitre 10, verset 28. C'est Jésus qui parle. « Je leur donne la vie éternelle à ses brebis. Hein, » il parle de ses brebis, une image pour désigner les croyants. « Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. » La question c'est, est-ce que nous croyons vraiment que Jésus a dit ça? Est-ce que nous croyons vraiment que Jésus, le Fils éternel de Dieu, dans sa perfection, dans son omniscience, a vraiment dit ça? Est-ce qu'il l'a dit pour faire semblant? Ou est-ce que c'était une figure de style, un peu de rhétorique pour nous impressionner? Ou est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Vous voyez? L'assurance de notre salut doit s'ancrer dans les promesses de Dieu. Est-ce que vous savez ce que Dieu promet aux croyants? Est-ce que vous croyez à l'authenticité, à l'infaillibilité de sa parole? Est-ce que vous croyez que non seulement Dieu a fait ses promesses, mais qu'en plus il est fidèle, donc il va les tenir, et qu'il est puissant, donc il va les accomplir. Quelle est la garantie de l'assurance du salut chez le croyant? Dieu nous a donné une garantie. Comme si ce n'était pas suffisant qu'il nous parle, qu'il nous fasse des promesses, il nous a même donné une garantie. Et cette garantie, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que nous avons été scellés, par le Saint-Esprit, pour le jour de la rédemption. Okay? Si Dieu scelle quelque chose, autant vous dire que ce sceau, c'est du costaud, quoi. C'est fiable. Il risque pas d'être brisé par qui que ce soit. 2 Corinthiens 1, verset 22, une expression bien particulière qui nous est donnée ici. Il nous a marqué de son sceau. Et il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Un acompte. Il nous a donné un acompte sur l'héritage qui nous est réservé dans l'éternité. Dieu nous a donné cet acompte pour garantir le fait que nous sommes bien sauvés et destinés à la vie éternelle. Donc ça, c'est une garantie, je dirais, théologique. Bon, c'est une information que nous pouvons lire dans la Bible pour conforter notre assurance. Mais comment faire l'expérience de cette assurance? Comment dissiper les doutes? La Bible dit, l'apôtre Paul dit, que nous avons reçu non pas un esprit de crainte, mais un esprit d'adoption. Un esprit d'adoption qui crie « Abba, Père ». Romains 8, verset 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il s'agit manifestement d'une expérience très personnelle. L'esprit rend témoignage à notre esprit. Moi, je ne peux pas lire l'esprit de Judson ou l'esprit de Jonah, mais vous pouvez témoigner de ce qui se passe dans votre esprit, dans votre relation personnelle avec Dieu. Et ça, je crois que c'est une invitation à cultiver cette relation qui est une relation vivante avec le Seigneur. Vous savez, comment mes enfants à moi, j'en ai quatre, comment peuvent-ils recevoir l'assurance que je suis bien leur père? Ils ne vont pas appeler la mairie et demander un acte de naissance. Enfin, c'est moi qui garde le livret de famille, ils ne peuvent pas y accéder comme ça. Hein. Comment est-ce qu'ils peuvent avoir l'assurance qu'il y a une relation de filiation entre eux et moi et Suzanne? Ils ont cette assurance du fait de la relation vivante et personnelle qu'ils entretiennent avec nous. C'est pas vrai? Mais c'est la même chose avec le Seigneur. C'est ça qu'il veut dire l'apôtre Paul ici. L'Esprit lui-même rend témoignage, l'Esprit Saint rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais ça se passe dans le cadre d'une relation vivante et personnelle avec le Seigneur. Donc il est possible de faire l'expérience de l'assurance du salut. Mais l'assurance du salut, elle fluctue. Elle fluctue, et oui. C'est une réalité biblique aussi. Le roi David a dû demander à Dieu de lui rendre la joie de son salut. Et puis on pourrait lire pas mal d'autres passages, notamment dans les psaumes. Psaume 77, par exemple. Juste pour en lire un petit extrait, on peut lire aussi le psaume 22, où on voit que le psalmiste, il doute. Et tout en doutant, il est en train d'écrire des choses qui sont inspirées par le Saint-Esprit. C'est quand même fort, hein. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il tend l'oreille vers moi. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, ma main se tend sans se lasser. Mon âme refuse d'être consolée. Je me souviens de Dieu. Comme si c'était un souvenir. Dieu est devenu un souvenir. Et je gémis. Je réfléchis et mon esprit est abattu. Un peu plus loin, je réfléchis aux jours d'autrefois. Aux années du lointain passé. Je me rappelle mon cantique pendant la nuit. Je médite au-dedans de mon cœur et mon esprit fait des recherches. Le Seigneur rejettera-t-il pour l'éternité? Ne sera-t-il plus à nouveau favorable? Sa bienveillance est-elle à jamais épuisée? Ce qu'il dit est-il anéanti de génération en génération? Vous voyez à quel point le psalmiste doute. Ce que Dieu a dit est-il anéanti de génération en génération? Dieu a-t-il oublié de faire grâce? A-t-il dans sa colère retiré ses compassions? L'assurance du salut, mes amis, elle fluctue, c'est une réalité biblique. Rappelez-vous de Pierre, la façon dont il a renié le Seigneur. C'est possible. Mais en même temps, la solution biblique, le secours qui nous est présenté dans la Bible, c'est de revenir vers la parole de Dieu, vers ses promesses, de chercher sa face dans la prière. Et Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il nous encourage. Il nous console. C'est l'œuvre de son esprit en nous. Cinquième et dernière facette de notre conversion, on a parlé de la foi en Jésus, on a parlé de la repentance des œuvres mortes, on a parlé de l'obéissance à la parole, on a parlé de l'assurance du salut. Cinquième facette, le culte de Dieu. Et oui, nous sommes sauvés par le moyen de la foi, invités à nous repentir de nos péchés, incités à obéir à la parole de Dieu. Nous recevons par la grâce de Dieu, l'assurance de notre salut qui s'entretient. Mais nous sommes appelés aussi à rendre à Dieu un culte, à l'adorer. Pourquoi est-ce qu'on doit rendre un culte à Dieu? Pour quelle raison? Parce qu'il est Dieu. La réponse est facile. Parce que Dieu est Dieu. Il est le créateur de tout ce qui existe, comme le rappelle Paul dans le livre des Actes, chapitre 17. Il parle à des païens. Hein, des Grecs, et il leur dit le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits par la main des hommes. Autrement dit, il est en train de dire Dieu est digne de recevoir un culte de toute la création. Ce que Paul est en train de dire, de sous-entendre, c'est que les Grecs auxquels il est en train de s'adresser doivent eux aussi rendre un culte à ce Dieu-là. Sauf qu'ils ne le connaissent pas exactement à ce moment-là. C'est ça ce que Paul est en train de dire. Dieu est digne de notre culte parce qu'il est Dieu tout simplement. Il n'a pas besoin de se justifier. Il n'a pas besoin de justifier le culte qu'on doit lui rendre. Il est Dieu. Et le culte que nous sommes appelés à lui rendre est rendu possible par Jésus. Par Jésus. Par Jésus. Comme on l'a dit ce matin, en fait. Hein. Par Jésus, en lui, nous pouvons rendre un culte à Dieu, pardon, un culte qui lui est agréable. Le culte de Dieu est un culte exclusif également. Il n'y a que Dieu qui doit être adoré. Il n'y a que lui qui est digne, qui soit digne d'être adoré. Vous vous souvenez quand Jésus a été tenté dans le désert et le diable l'a emmené sur une montagne, il lui a montré tous les royaumes du monde et lui a dit, ben, prosterne-toi devant moi, adore-moi et je vais te donner tout ça. Pas mal comme proposition. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Ça veut dire qu'on ne doit pas rendre un culte aux saints, on ne doit pas rendre un culte à Marie, on ne doit pas rendre un culte aux anges, on ne doit pas rendre un culte aux hommes, ni aux animaux, ni à la terre, ni à l'univers, ni à quoi que ce soit d'autre que Dieu, parce que tout le reste, tout ce qui n'est pas Dieu, est une création de Dieu, et donc inférieur à lui. C'est à Dieu seul que nous devons rendre un culte. Quels sont les éléments qui caractérisent notre culte? Alors, le culte, évidemment, il y a un sens large, hein, le culte que nous rendons à Dieu par notre vie tout entière. Et c'est à cela que l'apôtre Paul fait référence dans Romains chapitre 12, lorsqu'il dit « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Si j'offre mon corps à Dieu, qu'est-ce qui me reste? C'est une image de tout mon être, une expression de tout mon être. J'offre tout mon être à Dieu en culte, en offrande. Et c'est ça le culte des chrétiens. C'est une vie entière qui lui est consacrée. Mais il y a aussi un sens plus étroit, évidemment, hein, quand on parle du culte, le dimanche matin, par exemple. On a un exemple de ce qui caractérisait le culte des premiers chrétiens, dans Actes chapitre 2, verset 42. Et ben, les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, l'enseignement des apôtres, c'est la parole de Dieu, hein. C'est la Bible, c'est la révélation que Dieu nous a transmise. Donc, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Vous voyez l'importance de la communion fraternelle, le fait de se réunir en église. Ils persévéraient aussi dans la fraction du pain. Donc, la fraction du pain, hein, c'est ce qu'on a fait ce matin, c'est la Sainte Cène notamment. Et dans les prières. Et à cela, on peut ajouter, parce que la Bible en parle aussi, on peut parler du chant, le chant des psaumes, le chant des cantiques. On peut... voilà, vous voyez le chant des psaumes et des cantiques. On doit se méfier de tout ce qui est... de tout ce qu'on prétend utiliser pour offrir un culte à Dieu, mais qui n'est pas explicitement ordonné dans la Bible. Je ne dis pas que c'est interdit, mais je dis qu'on doit s'en méfier. Parce que c'est un peu comme ce qu'on disait au sujet de l'obéissance, et ériger en loi divine des préceptes humains. On peut faire preuve de beaucoup de créativité dans le culte, n'est-ce pas? Aussi bien le dimanche matin que dans nos vies personnelles, et dire « moi je loue Dieu en faisant ceci ou en faisant cela ». Oui, d'accord, mais qu'en dit la Bible? Dans la Bible, le culte se résume à des choses plutôt simples. La prédication de la parole, la communion fraternelle, les sacrements, le chant et les prières. D'accord? Enfin, quel est le contexte du culte que nous rendons à Dieu? Est-ce qu'il y a un lieu particulier? Est-ce qu'il y a un contexte particulier? Non, il n'y a pas de lieu particulier pour rendre un culte à Dieu. Jonas nous l'a dit ce matin. Le temple, c'est Jésus. C'est Jésus. Jean 4, verset 21. Vous vous souvenez de cette Samaritaine qui discute avec Jésus et qui lui dit d'après nous, on doit adorer sur cette montagne, d'après vous, on doit adorer là-bas, au temple, à Jérusalem. Et Jésus lui répond, Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Et un peu plus loin, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Voilà pourquoi nous pouvons rendre un culte à Dieu dans le secret de notre chambre, dans nos maisons. Nous pouvons rendre un culte à Dieu sur notre lieu de travail, figurez-vous, même si parfois la loi l'interdit de façon ostentatoire, n'est-ce pas ? Mais par l'offrande de notre vie, de nos corps, comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, nous pouvons l'adorer sur notre lieu de travail. Dieu reçoit notre adoration, notre culte. Nous pouvons l'adorer dans un local commercial, comme ici, qui nous coûte les yeux de la tête. On peut adorer Dieu dans une salle de la paroisse catholique de Gerland, et nous pourrons, si Dieu le veut, l'adorer, lui rendre un culte dans un lieu mieux adapté, un jour prochain, nous l'espérons. Place Guichard, Bourse du Travail, ou dans la rue, dehors, dans le froid. Enfin, vous voyez, les chrétiens dans le monde entier rendent un culte à Dieu dans plein d'endroits. Vous savez, vous connaissez la période où les protestants étaient persécutés, ils se cachaient, parfois dans des grottes, il y a très longtemps dans les catacombes, avec des ossements humains autour d'eux, pour rendre un culte à Dieu, rendez-vous compte. Nous rendons un culte à Dieu le Père, au nom du Fils, par le Saint-Esprit. Alors pour conclure, je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà fait du ski de randonnée. Quelqu'un a déjà fait du ski de randonnée ? Ce n'est pas du ski de fond, ce n'est pas du ski de piste, c'est encore autre chose. Du ski de randonnée, c'est du ski où on monte les montagnes à ski. Et pour pouvoir monter sans glisser en arrière, on colle des peaux de phoque sous les spatules. Et on monte, et du coup on peut glisser en avant et pas en arrière. Donc on monte comme ça, arrivé en haut de la montagne, on enlève les peaux de phoque, et ensuite on peut descendre comme sur une piste, quoi, d'accord ? Sauf que l'avantage, c'est qu'on peut aller dans des endroits où il n'y a pas de télésiège, et donc beaucoup moins de gens. Et puis c'est plus de sport aussi. Bref, quand on fait du ski de randonnée, on fait quelque chose qui s'appelle une conversion. Parce qu'on ne peut pas monter une montagne très raide tout droit, on monte en zigzag, d'accord ? Et à chaque fois qu'on arrive au bord de la montagne, on doit faire une conversion. C'est-à-dire qu'on est obligé de passer un ski comme ça et le passer de l'autre côté. Ensuite, on ramène l'autre ski et on peut repartir dans l'autre sens, et on monte comme ça en zigzag. Et à chaque fois qu'on arrive au bout d'une ligne, on doit faire une conversion. Moi, j'ai fait pas mal de ski de randonnée, et j'ai très peur des conversions, parce que j'ai peur de m'emmêler les spatules, et de me retrouver face comme ça à la pente, et de partir en avant comme ça. Et la question que je veux vous poser, c'est à quoi ça ressemblerait justement, une demi-conversion ? Une conversion qui ne serait pas complète, donc pas 180 degrés, mais seulement 90 degrés. On se retrouverait plutôt mal, quoi. Hein. On se retrouverait à foncer vers le précipice. Mais en réalité, une conversion au sens biblique, c'est quelque chose de vraiment radical, quoi. C'est un changement de direction total. C'est pas quelque chose qu'on peut faire à moitié. On l'a vu le mois dernier, Dieu veut faire quelque chose de complet dans notre vie. Le salut qu'il nous offre est complet, il est complètement de Dieu. Et la réponse qu'il attend de notre part, la réponse qu'il suscite lui-même d'ailleurs sous l'action de son Saint-Esprit opérant par le moyen de sa parole dans le cœur des élus, eh bien cette réponse, c'est une réponse radicale, c'est une réponse complète, c'est une réponse à la hauteur de ce que lui a fait pour nous. Et heureusement que c'est lui qui la suscite dans nos vies, parce que nous, on en serait totalement incapables.